Écosystème, Florence Farion.
Quoi de plus clivant que le football ou la politique? Vous mettez un de ces sujets sur la table lors d'un dîner et vous pouvez être certain que les esprits vont s'échauffer et que cela parlera fort, que les oppositions vont se crisper et qu'il y a peu de chances que les uns et les autres changent de point de vue. Quoi donc de plus clivant? Ainsi peut-être essayez la tauromachie ou encore l'école. Entre les partisans de l'école traditionnelle et ceux qui disent qu'il faut tout changer, les arguments vont fuser, chacun ayant vécu sa propre expérience d'élève, celle de parent accompagnant son enfant avec plus ou moins de bonheur sur le chemin de l'école. Et entre ces deux clans, il y a rarement un juste milieu. En effet, le débat est souvent passionné. Notre invité a tenté de proposer un nouveau regard. Son expérience de l'enseignement a été très suivie, très médiatisée, ce qui ne lui a pas valu que des bonheurs et pourtant elle maintient son cap. Il faut revoir l'école, transmettre autrement. Transmettre, c'est un verbe qui sera au cœur de notre égosystème du jour. Transmettre, titre d'un nouvel ouvrage collectif que nous allons découvrir. Bienvenue, cet égosystème sur la première jusqu'à 14h. Bonjour Céline Alvarez.
Bonjour.
Merci de revenir de Bruxelles pour partager cette heure avec nous. Sans être indiscrète, vous étiez partie travailler à Bruxelles.
Oui, oui.
Transmettre encore et encore.
Exactement. J'étais allée transmettre des informations qui me semblent des informations théoriques et des informations pratiques qui me semblent libératrices pour les adultes, les pédagogues que nous sommes tous quelque part quand on vit auprès d'enfants. Donc voilà, j'étais allée donner une grande conférence devant 1500 personnes et c'était un moment particulièrement, paradoxalement, très amical et informel.
Vous animez des ateliers, donc des conférences, on l'a entendu. Vous proposez aussi à travers votre site toutes sortes d'outils. Il y a beaucoup de petits films illustrant votre vision de l'enseignement. Vous avez écrit un livre précédemment paru aux éditions de la Reine, Les lois naturelles de l'enfant, qui a fait grand bruit, je le disais, parce que vos propos ont un peu dérangé. Ça a secoué, mais ça aussi vous a secoué. Vous vous attendiez pas à ça, j'imagine. Parler de l'école autrement, essayer d'insuffler d'autres choses. Est-ce que vous vous attendiez à recevoir un accueil pas toujours très aimable, on va dire?
Alors non, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Ouais. Je pensais très naïvement que... Parce que ce que j'ai réalisé à Gennevilliers, ce n'était pas un acte pédagogique. Ce que je voulais faire, c'était montrer qu'en respectant davantage la manière dont apprend et s'épanouit l'être humain, je dis bien davantage parce qu'on fait déjà ce qu'on peut, mais on peut faire encore plus, eh bien en faisant ça, on allait obtenir des résultats extraordinaires tant sur le point de vue du développement des compétences cognitives que sur au niveau des compétences non cognitives. C'est vraiment quelque chose d'important. Et je m'attendais naïvement à ce que lorsque les résultats seraient positifs, eh bien, je pensais qu'il y aurait un accueil très favorable et un enthousiasme qui apporterait d'ailleurs une envie de changer les choses collectivement. Donc j'étais très surprise des résistances qui se sont dressées. Mais bon, je pense que ça fait partie...
remise en question et profonde. Parce que quand vous dites Gennevilliers, je vais quand même dire en quelques mots ce qu'était votre expérience. Vous êtes linguiste de formation et vous avez fait un passage de quelques années dans l'enseignement à l'éducation nationale en France. Et vous avez tenu une classe pendant 3 ans dans un quartier plutôt défavorisé, avec des enfants plutôt en difficulté. Vous les avez amenés à une pédagogie tout autre. Vous avez inventé des choses, vous avez repris des choses. On va y revenir dans le détail. Vous avez tiré des enseignements. On y reviendra longuement, mais là, pour l'heure, on va parler de ce livre Transmettre, dire quelques mots quand même de cette actualité. Transmettre, c'est un livre qui est paru aux éditions de l'Iconoclaste, ce que nous nous apportons les uns les autres, avec toute une liste, je dirais, un peu de référents en matière aujourd'hui de psychologie, à vos côtés Christophe André, Catherine Guéguen, Ilos Kotsou, Frédéric Lenoir, Caroline Le Cyr, Frédéric Lopez, tiens, que fait-il là, le présentateur télé, et puis Mathieu Ricard, voilà, Transmettre. Qu'est-ce qui vous a réuni finalement, vous tous, autour de ce projet de Transmettre?
Eh bien, je pense que là, comme ça, ce qui me vient, c'est qu'il y a deux choses qui nous réunissent. La première, c'est que ce qui m'a frappé, c'est que nous sommes tous des êtres humains qui s'autorisent à être ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent être dans toutes les difficultés que cela peut engendrer et dans toutes les joies aussi que cela peut apporter. Ça, c'est vraiment la première chose qui m'a marquée. Et l'autre chose, c'est que eh bien, nous sommes fondamentalement des êtres humains qui essaient de se battre pour que le monde soit un petit peu meilleur, un peu plus juste. Et c'était vraiment un moment extraordinaire d'être avec ces personnes.
C'est parti d'une conférence, hein. Vous vous êtes tous retrouvés sur une conférence qui était sur ce thème de la transmission. Et à partir de là, l'idée du livre est née. C'est comme ça que ça s'est fait.
C'était sur une journée de conférence entière. Voilà.
Mmh. La transmission, il y a une définition commune à vous tous. Transmettre, c'est quoi? C'est donner.
Je pense qu'au final, quand on ressortait de cette journée de conférence, on s'apercevait qu'effectivement, transmettre, c'était être soi, être disponible, être dans l'accueil de la relation et donner, offrir, en toute humilité. Je crois que c'est un peu ce qui ressortait. Être capable d'être présent à la relation aussi. On ne peut pas transmettre sans accueillir le lien, sans le nourrir, sans l'accueillir, je crois que c'est vraiment ça. Je reprends une phrase que donne Mathieu Ricard souvent, il dit « le messager doit être le message, sinon que transmettre ?» Être et offrir. Peut-être je rajouterai un troisième, la disponibilité, voilà. Le mélange de tout cela, d'être, d'offrir et d'être disponible, je pense qu'on approche, de ce que pourrait être l'essence de la transmission.
Christophe André dit « Nous transmettons ce que nous savons, mais surtout nous transmettons ce que nous sommes. »
Complètement.
La transmission au cœur de notre humanité, donner, recevoir, redonner. Nous sommes tissés de ces échanges dont certains transforment durablement notre vie, en famille, à l'école, au travail, en amitié, dans les rituels laïcs ou religieux. Tout ça, c'est du lien. Et tout ça, effectivement, à travers différents regards, puisque, alors vous, c'est plutôt le volet pédagogique, mais chacun, finalement, a sa spécificité, a aussi son domaine. Il y a ou du témoignage, ou effectivement du savoir, des compétences. Le livre est extrêmement agréable à lire, ce sont des petites histoires courtes finalement. Qu'est-ce que vous ont appris tous ces gens qui ont réfléchi à cette idée de transmission?
Une chose vraiment qui m'a frappée, que j'ai trouvée édifiante, c'est que dans mes recherches, dans mes études, ce qui est ressorti très clairement, c'est que pour permettre à l'être humain de transmettre et d'apprendre, il faut qu'il y ait absolument une relation positive. Et c'est pour cela que moi j'avais intitulé la quatrième partie de mon livre, l'important, le secret, c'est l'amour. Parce que véritablement, il n'y a rien de plus scientifique que cette phrase finalement. Et ce qui m'a frappée, c'était de voir que parmi le prisme de chacun, même si nous abordions la transmission par des expériences et des points de vue différents, à chaque fois, ce qui ressortait, ce qui était vraiment le plus fondamental à respecter pour transmettre, c'était l'amour. L'amour et le lien. L'accueillir et le nourrir. Et parce que peu importe la manière dont la transmission se matérialise, peu importe le contexte dans lequel elle opère, eh bien, nous sommes des êtres qui ne pouvons pas recevoir une transmission, un savoir, ou le transmettre en l'absence de relation. Notre cerveau ne peut pas engrammer quelque chose d'une personne avec qui nous n'avons pas de relation, en fait.
Transmettre aussi, ce qui est souligné dans ce livre, c'est que c'est une source de joie. Mmh. Ça apporte à la fois à celui qui reçoit, mais aussi à celui qui donne. Vous l'avez ressenti, vous l'avez vécu, ça aussi, Céline Alvarez.
Ah oui, je le ressens comme toute personne qui cherche dans sa vie à être en lien avec les autres, même quand les situations sont parfois difficiles, même dans les situations qui pourraient être conflictuelles, essayer de garder ce lien-là. Et quand on arrive à faire cela, donc à rester en connexion avec l'autre, même dans des situations où il y a des accords, eh bien c'est vrai que je trouve que ça procure une joie immense. On reste ensemble. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Moi, je l'ai constaté effectivement par mes expériences personnelles. Quand on apprend les uns des autres, eh bien c'est vrai qu'il y a une joie qui nous emplit le cœur, quoi. On va aller en ce sens de plus en plus, parce que ce qu'on est en train de dire là, c'est absolument éminemment scientifique, parce que puisque la transmission opère par le lien, lorsqu'il y a un lien entre deux êtres humains, donc a priori un lien positif, eh bien il y a sécrétion d'ocytocine, en fait, dans les cerveaux des deux personnes, celle qui essaie de nourrir d'établir le lien, celle qui reçoit cette intention positive. Et c'est quand il y a sécrétion d'ocytocine qu'il y a une sécrétion moléculaire en cascade avec des endorphines, de la dopamine, de la sérotonine. Et toutes ces molécules, en fait, sont extrêmement bienfaisantes. Elles nous font nous sentir bien, elles développent l'empathie, elles stabilisent l'humeur. Donc c'est pas étonnant que finalement, quand on soit dans des relations de transmission, puisqu'il y a forcément un lien positif entre les êtres humains, puisqu'il y a transmission, eh bien qu'il y ait cette sensation de bien-être, de bonheur, et puis au-delà de ça, une sensation aussi d'être plus fort, d'avoir plus de capacité, plus d'allant. Ça, c'est lié à la dopamine. Donc ça s'explique.
Transmission, qui dit transmission dit, alors vous l'avez déjà plus ou moins dit entre les lignes, mais il y a ce mot de bienveillance aussi qui va forcément avec la transmission. Confiance, générosité, on met quel mot derrière la transmission ?
Le lien, parce qu'à partir du moment où le lien est coupé, ça peut être par un stress, ça peut être par un jugement, ça peut être par de l'indifférence, à partir du moment où le lien entre les êtres humains n'existe pas ou est coupé, il ne peut pas y avoir de transmission. Donc le mot que l'on pourrait mettre, hormis la bienveillance, la générosité derrière la transmission, je crois vraiment que c'est le lien. Et peut-être même au-delà du mot lien, le mot reliance, que j'apprécie particulièrement, parce qu'il sous-entend l'idée, au moins intuitivement, que c'est réunir des êtres qui peut-être sont d'abord originellement liés. Et donc peut-être, voilà, derrière le mot transmission, au-delà du mot lien, peut-être le mot de reliance.
Mais vous savez, le mot lien, ça me va bien. Égosystème, c'est une émission qui parle du lien, donc vous êtes à votre place, et le sujet aussi. Transmettre, Céline Alvarez, notre invitée jusqu'à 14h, ce que nous apportons les uns les autres, paru aux éditions de l'Iconoclaste, et quelque chose que je n'ai pas dit, et qu'il est important de souligner, c'est que tous les droits d'auteur, vous avez cédé tous vos droits d'auteur pour, ils seront reversés à l'association Émergence, qui soutient des projets d'accès aux soins et à l'éducation des enfants. Quelques mots sur cette association Émergence.
Eh bien, c'est une association qui essaie vraiment, pour le coup, qui donne toute son énergie pour que le monde soit vraiment meilleur et un peu plus juste, qui agit dans les prisons, qui agit auprès des jeunes parents, auprès des enfants, pour apporter des informations aussi de leur côté, et à la fois théorique et pratique, pour que chacun se sente mieux avec lui-même, mieux avec l'autre, donc par différents outils. Et puis surtout, Émergence, c'est une association qui est portée par des personnes magnifique, vraiment extraordinaire, d'une humanité rare.
Ben voilà, c'est tout, c'est ce beau projet, donc transmettre aux éditions de l'Iconoclaste. Projet musical maintenant, 3 minutes de musique avec un Suisse, Jérémy Kissling, Ton papa. Si on n'est pas dans la transmission, je ne m'y connais pas.
Tu auras de ta maman la peau plus dorée que moi, un sourire un peu plus blanc qui s'ouvre tout grand comme ça. Même si le bout de tes veines t'entraîne tout là-bas, que tu tiennes un peu de ton. We'll be right back. tu tiennes un peu à ton papa.
Nous recevons aujourd'hui Céline Alvarez, co-auteure de Transmettre, un livre paru aux éditions de l'Iconoclaste, un collectif qui s'interroge sur le lien et les bonheurs de la transmission. Céline Alvarez, vous y parlez pédagogie, on y a fait allusion tout à l'heure, c'est vrai que vous, c'est votre domaine, la pédagogie, l'enseignement. Un livre précédemment paru, Les lois naturelles de l'enfant, paru aux éditions des Arènes, ça c'était il y a quelques années, où Vous relatiez votre expérience de pédagogue, ça vous va ?
Je n'ai pas vraiment enseigné dans cette classe, j'ai plus dirigé une expérimentation et voilà, je ne suis pas réellement enseignante.
Mais vous avez passé le concours de l'enseignement pour avoir accès,
voilà,
justement.
Pour avoir les passeports nécessaires pour mettre en place cette expérimentation pédagogique, même si je savais qu'elle allait s'arrêter, puisque mon objectif n'était pas de rester dans la classe, mais simplement pendant un temps donné, pouvoir montrer qu'on pouvait vraiment collectivement faire beaucoup mieux pour nos enfants avec des moyens qui ne sont pas extraordinairement beaucoup plus importants.
Faire l'école autrement. Donc on va essayer de décrire ce projet pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler. Projet, j'ai envie de dire universel, parce que là ça s'est passé en France, mais ça pourrait se passer dans n'importe quel pays. Après il y a toutes les institutions qu'il faut convaincre, etc. Mais dans la pratique, vous étiez dans une classe d'enfants, ils étaient entre
25 et 27 enfants.
Voilà. Ils avaient entre 3 et 5 ans. Vous avez mélangé les niveaux. Mm-hmm. Ils étaient tous ensemble, de niveaux différents, pas franchement en avance.
Voilà. Pas du tout.
Pas du tout. Et vous les avez pris pendant 3 années, c'est ça, hein ?
Oui.
Vous avez vendu comment votre projet à l'Éducation nationale ? Vous êtes partie en disant quoi ? J'ai envie de tester un truc, faites-moi confiance.
À peu près ça. Je voudrais juste quand même préciser aussi une chose importante, c'est que cette expérimentation a eu lieu dans un quartier très défavorisé de banlieue parisienne. C'est important de le dire. Et au sein de l'école publique. Mais comment j'ai présenté ça, mon envie d'expérimenter au ministère, tout simplement en leur disant l'obsession que j'avais dans le ventre, quoi, c'était de leur dire, écoutez, je pense qu'il faut vraiment qu'on sorte en fait des démarches dogmatiques et idéologiques et des débats d'idées et d'opinions en fait pour en ce qui concerne l'éducation de nos enfants et qu'on entre vraiment dans une démarche scientifique basée sur la connaissance de la vie humaine en plein développement. Quels sont ces grands principes d'apprentissage, quels sont les grands principes d'épanouissement et comment on peut les respecter davantage. Et je leur ai vraiment demandé de me suivre dans cette réflexion en me permettant de travailler dans une classe où j'aurai une carte blanche pédagogique et où je tenterai de respecter davantage donc ces grandes lois naturelles de l'apprentissage et de l'épanouissement. Malgré l'investissement et la passion de nos enseignants, ils n'ont pas forcément les bonnes informations et les bons outils. Le rapport entre l'effort fourni et le résultat obtenu n'est pas tenable en fait, parce que le résultat n'est pas si bon que ça. C'est pour ça d'ailleurs que nos enseignants sont épuisés et peuvent parfois perdre confiance en eux alors qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Et donc, quand j'ai parlé de cela, je crois que ça a résonné. Et on m'a dit une phrase, vraiment, je m'en souviendrai toujours parce que je ne m'y attendais pas du tout. On m'a dit, écoutez, si ce que vous dites est vrai, on n'a pas le droit de passer à côté. On m'a dit, il vous faut quoi ?
Et à ce moment-là, vous avez dit, en même temps, vous dites peu de moyens. C'est vrai que sur papier, en tout cas ce que j'ai vu, vous aviez votre classe et puis vous aviez une ou un assistant, enfin quelqu'un qui vous secondait.
Mm-hmm. C'est le cas pour la plupart des classes quand même en France, même si...
Des petites sections.
Oui,
hein.
Donc c'est vrai que Gennevilliers, malgré que ce ne soit pas malheureusement une généralité qu'il y ait 2 adultes par classe dans une classe de 25 ou 30 enfants de moins de 5 ans, j'ai souhaité... c'est vraiment le souhait que j'ai fait au tout dernier moment, parce qu'au départ, je voulais tellement montrer qu'on pouvait faire beaucoup mieux avec peu, que j'étais partie pour être seule dans la classe, vous voyez. Mais 3 semaines avant la mise en place de l'expérimentation, j'ai eu subitement une prise de conscience et je me suis dit non, c'est pas possible, parce que si les résultats sont bons comme j'imagine, et que je suis toute seule dans la classe, qu'est-ce qui va se passer ? On va dire, mais écoutez, elle y arrive très bien, elle, toute seule dans sa classe, pourquoi on donnerait honte ? Et je ne voulais pas cautionner ça. Donc j'ai fait le choix 3 semaines avant le démarrage de l'expérimentation d'avoir un assistant à mes côtés. Et ensuite, effectivement, il y avait des moyens...
Des outils pédagogiques, vous avez quand même voilà, commandé des choses, j'imagine.
Il y avait des outils pédagogiques. Et là, était quand même une de mes grandes erreurs dont je prends conscience aujourd'hui, c'est que par facilité, par rapidité, moi j'ai repris le matériel des docteurs Séguin et Montessori. Principalement, c'était le matériel du docteur Séguin, qu'on appelle Montessori, malheureusement, enfin, tout est un petit peu mélangé. Mais par facilité, parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas le matériel, c'est toute l'installation de l'écosystème humain, l'organisation de la classe, des temps, des échanges, etc. C'est ça le plus important, j'en parle beaucoup dans mon livre. Et le matériel, qui était important, mais qui ne reste qu'une béquille, par facilité, j'ai repris vraiment celui qui avait été utilisé par Séguin et Montessori. Mais c'était là une grande erreur, parce qu'en fait, maintenant, je m'aperçois que beaucoup de personnes pensent qu'il faut absolument ce matériel-là pour réussir. Et que d'ailleurs, si on a ce matériel-là, c'est tout joué, c'est tout gagné, on va réussir. C'est complètement faux. On peut avoir la totalité de ce matériel et se vautrer complètement.
C'est la mise en place de toutes les interactions, de tout ça. Mais juste, vous citiez Montessori, c'était une de vos inspirations, quand même.
Complètement.
Voilà, Montessori, Maria Montessori.
J'irais même au-delà de ça, c'était presque comme un maître posthume. C'était vraiment quelqu'un... Parce que Édouard Séguin et Maria Montessori ont été deux médecins qui ont ouvert la voie à la démarche que j'essaie de porter aujourd'hui, qui est une démarche physiologique de l'éducation, une démarche non idéologique, non dogmatique, qui est donc forcément évolutive puisqu'elle est scientifique, elle doit rester ouverte et elle évoluera les années passant à mesure des apports qui seront
découvertes, bien sûr,
qui seront donnés par la recherche. Donc c'est vraiment pas du tout un système figé. Et en ce sens-là, je m'inscris totalement dans la poursuite de l'héritage de ces deux grands médecins.
Les neurosciences leur ont donné raison, en plus, pour beaucoup de choses.
Oui. C'est ça qui est passionnant quand on regarde la recherche en sciences du développement humain, donc les neurosciences cognitives, affectives et sociales. On s'aperçoit que tout ce que nos pédagogues avaient pressenti, donc Maria Montessori, même Steiner, Freinet, Pestalozzi, De Croly, Tolstoï et tant d'autres.
Beaucoup de ça, vous avez remarqué.
Et tous les pédagogues que nous sommes en tant qu'anciens enfants, en tant qu'adultes parents, en tant qu'adultes enseignants, bref, que nous, pédagogues, collectivement, nous avions pressenti. Il n'y a pas que Maria Montessori, il n'y a pas que Édouard Séguin. Eux, effectivement, l'avaient perçu d'une manière différente, puisqu'ils étaient dans une démarche vraiment éminemment scientifique. Mais tous, nous avons collectivement perçu des choses. Et aujourd'hui, la recherche nous dit qu'il faut davantage qu'on se fasse confiance, parce que globalement, ce qu'on pressent comme profondément juste, eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Donc il faut vraiment qu'on se fasse confiance, même si finalement ce qui est matérialisé dans l'enseignement traditionnel diverge avec ce que l'on pressent. Mais il faut se faire confiance et il faut y aller, parce qu'on a raison en fait. Et ces informations que nous donne aujourd'hui la recherche, c'est pour ça que je parle d'informations libératrices, parce qu'elles nous redonnent notre pouvoir. Faisons-nous confiance, nous avons raison.
Alors moi, pour me faire une idée, je suis allée sur site et vous tapez effectivement Céline Alvarez, école. J'ai notamment vu un petit sujet d'une, je sais pas, 7-8 minutes, où on voit un montage en fait d'enfants dans votre classe évoluer avec des activités et avec ce qui m'a frappé, c'est le sourire de ces enfants. Voilà. Je pense que vous avez bien fait votre montage. Non, je plaisante. Non, mais il y avait un tel plaisir. On a l'impression que tout était fluide, tout était facile. Ça a été facile, si facile que le film a tendance à nous le montrer.
Oui, alors bien sûr, il y a eu des aspérités de la vie, c'est normal. Mais au-delà de ça, c'est ce qui nous a tous... Parce que, bien évidemment, quand on a mis en place cette expérimentation, très rapidement, les enfants sont rentrés dans les apprentissages fondamentaux, alors que on ne s'y attendait pas, enfin les parents en tout cas ne s'y attendaient pas, puisque on était dans un quartier défavorisé, les parents ont déjà des enfants plus âgés qui ont des difficultés à lire, à écrire, à compter, donc ils étaient très surpris quand leur enfant de 3 ou 4 ans entrait dans la lecture et lisait le soir des albums de littérature jeunesse à la maison. Ça, c'est la première chose. Mais au-delà de ça, ce qui nous a vraiment tous frappés, et moi la première, parce que même si je pressentais qu'il y allait avoir un développement des qualités morales et sociales fort, il y a toujours un décalage entre ce qu'on pressent, ce qu'on imagine, et puis quand d'un seul coup ça devient réel auprès d'une classe entière d'enfants de 3, 4 et 5 ans. Et effectivement, c'est ce qui a marqué aussi les parents. Les enfants sont devenus beaucoup plus calmes, beaucoup plus autodisciplinés, beaucoup plus ouverts au monde, beaucoup plus ouverts aux autres. Ils étaient généreux, empathiques. Et puis ils
beaucoup d'entraide aussi, les uns les autres, parce que vous avez mélangé les âges, mais les compétences, un plus petit pouvait être plus compétent dans une matière qu'un plus grand, et on a l'impression que ça circule.
C'est ça, il y avait une espèce de facilité à être ensemble aussi, et à apprendre. Une facilité retrouvée, et je pense qu'il n'y avait rien de miraculeux là-dedans, c'est que simplement, on laissait la nature reprendre ses droits, laissait l'intelligence se développer de la manière dont elle est prédisposés, préprogrammés à se développer. Parce qu'il y a un programme biologique d'apprentissage. Alors, avant d'imposer le nôtre aux enfants, il faut d'abord respecter le leur, le nôtre, nous avons le même. Et quand on respecte cela, eh bien, c'est tous les potentiels embryonnaires de l'être humain qui sont déjà déposés dans le cerveau de l'enfant, même si c'est dans un grand état de maturité, c'est tout à fait l'état embryonnaire, mais tout est déjà là, les circuits de l'empathie, les circuits du sens moral et éthique, les circuits du sens du nombre, les circuits du langage, les circuits moteurs et les circuits sensoriels, tout est là, les circuits des compétences exécutives aussi, tout est là à l'état latent. Et si on respecte effectivement, ces lois naturelles de développement, eh bien, c'est tout qui se développe. Ce n'est pas seulement l'empathie ou alors le sens du nombre, c'est tout qui peut enfin se déployer. Et là, vraiment, eh ben, on reste un petit peu quoi face à ça. Et c'est très surprenant. Moi, c'est vraiment la sensation que ce qui m'a frappée, c'est ce qui fait que je suis encore là, d'ailleurs, en train de parler de cette expérience et qui va faire que je vais continuer encore de nombreuses années, c'est que quand on observe ça, on se dit une chose immédiatement, c'est ok, on ne connaît pas, en fait, les potentiels réels humains. On ne les connaît pas, parce qu'ils sont censés être entravés dans leur développement par des dispositifs pédagogiques ou éducatifs qui ne sont pas cohérents, bien que les personnes qui les mettent en place aiment de tout leur cœur les enfants. On fait toujours ce qu'on peut, mais quand il nous manque les informations essentielles, ben on peut être maladroit ou indélicat malgré nous. Et donc c'est ça qui a émergé quand on observait ces enfants dans la classe, tant chez les parents que chez les chercheurs qui ont visité la classe que chez moi, c'était mais ok, vraiment on ne connaît pas les potentiels humains, tant sur le plan cognitif que sur le plan non cognitif. Donc
on ne les connaît pas et on ne les prend pas en compte. Et on va essayer dans la troisième partie justement de parler, parce que c'est vrai qu'en tant que parent, la plupart de nos auditeurs j'imagine sont plus parents, certains enseignants évidemment, bonjour qui nous écoutez, mais c'est vrai qu'on se pose tous la question de l'adéquation entre le monde d'aujourd'hui, nos enfants et puis l'école. Il y a plein de questions qui se posent et on va vous les poser, Céline Alvarez. Mais après un peu de musique, ce sera Annette Louisanne, Das Modell. Quel modèle ? Alors, on en parle dans quelques minutes.
Augen angeguckt. Ich muss sie wiedersehen, ich lass sie, hat's geschafft.
Un détour par les routes avant le retour d'Ego-Système.
Infotrafic RTS.
Sur l'axe Genève-Aoste, un temps d'attente d'une demi-heure est annoncé au péage français du tunnel du Mont-Blanc en direction de l'Italie.
C'est la troisième partie d'Ego-Système où nous parlons de l'école. Nous prenons le chemin de l'école. Je disais en guise de boutade en commençant cette émission que parler d'école, c'est comme parler de tauromachie, de politique, etc. Et on se prend très très vite la tête. Mais il y a quand même quelque chose, il me semble, qui réunit les parents d'aujourd'hui. Quand on discute de l'école de nos enfants, c'est... On se dit quand même tous que c'est pas tout à fait juste, quoi. Et on a l'impression que les profs sont pas forcément à la bonne place, que les enseignements sont pas forcément adaptés à la vie d'aujourd'hui, et sans parler des matières dont on ne voit pas toujours l'efficacité. Et vous croisez, vous mettez par-dessus tout ça le système finlandais, qui est plutôt bien coté dans les fameuses études PISA. La Suisse l'est pas mal non plus, mais bon, les Finlandais apparemment se débrouillent tout d'un coup très bien avec tout ça. Donc j'aimerais qu'on brasse un peu dans l'innovation et dans l'imagination qu'on peut avoir. J'ai vraiment des questions de fond. Est-ce que c'est l'enseignement qui n'est plus adapté selon vous, Céline Alvarez, ou c'est ce que l'on enseigne, les matières que l'on enseigne, qui sont en décalage avec les besoins d'aujourd'hui ? Ou un peu des deux, mon capitaine ?
Certainement un peu des deux. Moi, la chose qui m'interpelle le plus et qui me semble vraiment appartenir presque à un autre monde, à un ancien système qui, je crois, et j'espère en tout cas, est en train de s'écrouler et donc qu'il faut revoir, c'est que il n'y a pas assez de relations d'entraide et de confiance entre les adultes qui essaient de former l'intelligence de nos enfants. Et même si ça a lieu...
Vous voulez dire entre enseignants ?
C'est toute une institution qui manque un petit peu, malgré elle, de bienveillance, parce qu'elle opère de manière assez froide, de manière très hiérarchique, et donc ça inhibe vraiment, pour le coup, les potentiels des adultes qui sont près des enfants. Malheureusement, ils ne peuvent pas donner tout ce qu'ils peuvent donner à nos enfants quand ils sont soumis à un stress, eux aussi, un stress institutionnel, un stress administratif, un stress humain qui peut parfois et assez souvent avoir lieu.
Et c'est vrai que la Finlande, typiquement, qui est ce fameux pseudo-modèle, j'en sais rien parce que je suis pas allée voir forcément en Finlande, mais il est dit que ce sont les chefs d'établissement qui choisissent leurs enseignants et qu'ils ont des contrats à très courte durée et que ça circule dans les deux côtés. C'est-à-dire que à la fois les profs évaluent à leur manière, parce qu'il n'y a pas vraiment de notes, mais évaluent les élèves, mais ils ont aussi en retour les appréciations des élèves sur les profs. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui se passent, mais l'enseignement doit changer parce que les enfants ont changé, Céline Alvarez aussi.
Je ne crois pas que les enfants aient changé. Je ne crois pas. En même temps, on ne peut jamais faire d'affirmation très radicale, parce qu'il y a peut-être un petit peu des deux, mais ce qui a changé, je pense, beaucoup, ce sont tous les facteurs épigénétiques, les facteurs environnementaux, l'alimentation de nos enfants, l'exposition aux écrans, l'exposition à des stress. Nous sommes de plus en plus pressés, de plus en plus soumis nous-mêmes à des stress. Et je crois que c'est ça qui a changé, qui fait qu'on a des enfants de plus en plus rapides avec une attention qui a du mal à se focaliser, qui ont du mal à s'arrêter sur une chose, à mettre en lumière, à ressentir quelles sont leurs véritables passions endogènes plutôt que des distractions comme ça très passagères et très superficielles. Je crois que si nos enfants ont changé, ils ont peut-être changé, mais plus principalement, je crois que c'est surtout l'environnement qui a changé et qui a tendance à avoir un impact quand même assez négatif sur les enfants.
Vous diriez que les besoins sont les mêmes ?
Les besoins sont les mêmes, exactement, puisque comme on le disait tout à l'heure, nos pédagogues des générations précédentes avaient pressenti ce que la recherche actuelle est en train de dire. Ce sont les mêmes lois qui sont mises en lumière, ce sont exactement les mêmes. Pour l'avoir testé avec les enfants à Gennevilliers et ailleurs, ce qui va leur permettre d'entrer à la fois d'un point de vue cognitif dans la lecture et d'entrer dans la lecture avec plaisir, ça va être lorsqu'ils vont s'emparer d'ouvrages qui les passionnent, où ils vont avoir des informations qui les intéressent, qui les nourrissent véritablement. Donc, c'est toujours le problème. On essaie de faire rentrer la culture qui nous semble indispensable d'abord de l'extérieur vers l'intérieur, sans écouter ce qui peut émerger de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut d'abord écouter quels sont les besoins, les passions, les intérêts de nos enfants, nourrir ça, je pense, parce que ça va de deux choses l'une, ça va à la fois permettre l'automatisation de la lecture, et parce que même au collège, on a des enfants qui n'ont pas encore tout à fait bien automatisé la lecture, ou alors ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Mmh. Et d'autre part, ça va développer, déployer vraiment le plaisir de la lecture, le plaisir à aller dans une bibliothèque, choisir un livre, découvrir des auteurs, découvrir des choses. Et c'est vrai que c'est au-delà de la lecture, c'est tout un système de pensée, une façon de réagir qu'il faudrait qu'on essaie autant que possible d'inhiber de notre côté en tant qu'adulte. Il faut arrêter de penser que nous avons les réponses, que nous avons les solutions, que nous savons ce qu'ils doivent apprendre. Ça ne fonctionne pas vraiment de fonctionner comme ça.
Clairement, on demande à l'enfant de s'adapter à l'école, alors que vous, est-ce que je vous trahis en disant que vous demandez à l'école de s'adapter à l'enfant ?
Non, c'est tout à fait ça.
C'est ça, hein ? Et d'ailleurs, pour cette école finlandaise, tu peux préparer les enfants pour les examens ou pour la vie, nous avons choisi la vie.
Exactement. Et surtout que c'est très intelligent comme choix, parce que ce que montre la recherche internationale, par exemple les neurosciences cognitives, ce qu'elle montre, c'est que si on veut permettre à nos enfants de bien lire, de bien écrire, de bien compter, donc d'entrer dans les fondamentaux avec facilité et en solidité, eh bien la meilleure façon de le faire, c'est de ne pas se focaliser sur la transmission des fondamentaux, lire, écrire, compter. Se focaliser dessus, c'est la meilleure façon de ne pas y arriver. Parce que quand on se focalise justement de manière, lorsqu'on se focalise non pas sur les fondamentaux, mais sur l'autonomie au quotidien, comme effectivement a l'air de le faire la Finlande, le fait, quand ils sont tout petits, le fait d'apprendre à s'habiller seul, le fait d'apprendre à interagir de manière autonome avec des copains, de se sortir des relations conflictuelles tout en restant connecté, mais de manière autonome, apprendre l'autonomie vraiment dans un sens très général, eh bien, ça va développer ce qu'on appelle les compétences exécutives des enfants. Donc, ce sont les compétences cognitives qui vont nous permettre, dans la vie, d'atteindre tous les objectifs que l'on se fixe. Que ce soit d'apprendre à lire, de s'habiller, de prévoir sa journée, et de la respecter, de respecter cet emploi du temps. Et donc, quand un enfant a développé de bonnes compétences exécutives, il pourra faire ce qu'il veut dans la vie. Et c'est bien ce qu'a montré l'expérience de Gennevilliers et ce qu'ont montré d'autres expériences. Un enfant, par exemple, à Gennevilliers, je me rappelle qu'il me disait, à 3 ans, je veux lire. Ça me semblait très tôt. Donc, je n'ai pas répondu réellement à sa demande. Eh bien, il a appris à lire tout seul en 3 semaines. Il trouve les ressources, les moyens nécessaires pour arriver à son objectif. Donc, comme le dit Adèle Diamond, qui est une spécialiste des compétences exécutives, elle dit, si vous voulez que vos enfants réussissent à l'école et dans la vie, la meilleure façon de le faire, c'est de permettre qu'ils puissent développer leurs compétences exécutives. Autrement dit, c'est de leur permettre de ne pas se focaliser sur les apprentissages fondamentaux, mais de vivre, quoi. De vivre.
Et pour en revenir à cette école finlandaise, d'ailleurs, j'étais assez surprise parce que le dessin, le sport, enfin, toutes ces matières que l'on dit secondaires ici sont des matières considérées comme principales. Il n'y a pas d'hierarchie dans les matières. Toutes les matières sont équivalentes et un enfant qui rechignera à faire des maths ou des 1, il aura le choix et il sera aussi valorisé qu'un autre s'il fait du sport, de la danse, du bricolage, des métiers du bois, etc. Les autres apprentissages viennent ensuite.
Exactement. Je peux vous donner un exemple que j'ai trouvé vraiment édifiant et frappant. C'est une petite fille dans la classe qui avait en plus des résultats. La première année, on a vu avec les pré-tests qu'elle avait vraiment un très gros retard sur sa mémoire de travail. Donc la mémoire de travail qui est une des compétences exécutives et qui est donc très prédictive de la réussite scolaire, professionnelle, etc. Et cette petite fille qui était très en retard et qui a priori n'avait pas un avenir qui se dessinait forcément très positif pour elle, eh bien, elle n'arrivait pas, effectivement, à rentrer dans les apprentissages fondamentaux. Eh bien, j'ai pu lui permettre pendant plus de 6 mois, effectivement, je l'ai accompagnée à ce qu'elle travaille tous les jours, quotidiennement, donc l'autonomie, apprendre à s'habiller seul, apprendre à aider les autres enfants, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et à faire des exercices pratiques, à laver des tables, à balayer les petits papiers que les copains avaient laissés par terre, enfin, tout ce qu'elle avait envie de faire, mais qui était pratique et qui allait lui demander l'exercice de ses compétences exécutives. Et notamment, elle adorait peindre. Ça choque toujours les enseignants quand je dis ça, et en même temps je suis contente de le dire, cette petite fille, pendant 6 mois, quasiment, a passé son temps à travailler l'autonomie avec joie, hein, elle le demandait, et à peindre. Et pourquoi peindre? Ça exerçait les compétences exécutives, parce que c'était pas tant le fait de peindre qu'ensuite de décrocher sa feuille, d'aller la placer sur le support pour qu'elle puisse sécher sans tacher tout le sol ni ses camarades, et sans se tacher elle-même également, mais ensuite nettoyer le chevalet de peinture, nettoyer l'éponge, et que l'évier également soit propre. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Quand elle arrive à faire ça, de manière absolument ordonnée et nickel, eh bien je vous assure qu'elle peut se mettre à entrer dans les fondamentaux. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Elle a fait passer à autre chose.
Écoutez, quand elle m'a dit, je me souviendrai toujours, elle me dit, Céline, je veux lire comme Shaima, qui était sa grande copine. Donc Shaima, qui avait 4 ans et demi, qui était déjà rentrée dans la lecture et qui lisait déjà des albums. Et cette petite fille, je lui dis, bah, très bien, donc je lui montre le son des lettres, etc. Et en à peine 3 semaines, elle s'est mise à lire. Cet enfant qui, a priori, avec les résultats qu'elle avait, elle n'aurait pas dû entrer si facilement dans la lecture, et certainement pas à 4 ans. Et ce qui s'est passé quand on a réalisé les tests la deuxième année, donc quand cette petite fille était en grande section, elle a passé des tests en lecture et en mathématiques, mais ce qui a été frappant, c'est qu'en lecture, elle a fait partie des enfants qui plafonnaient aux meilleurs résultats d'un enfant de CE2, donc de troisième année d'élémentaire.
Donc 8-9 ans.
Exactement, voilà. Et elle avait 5 ans.
Mais vous savez d'ailleurs ce qu'ils sont devenus ? Parce que l'expérience, vous les avez suivis de loin en loin. Je vous vois sourire.
Oui, je souris parce que, justement, hier, j'ai une petite fille qui m'a appelée par téléphone. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles d'elle. Et elle me disait qu'elle était très heureuse, que tout se passait très bien. Et le retour que j'ai des parents, de certains parents, parce que je n'ai pas gardé contact avec tous, c'est que les enfants, ils sont contents que les enfants conservent leur joie d'apprendre et la joie de la relation à l'autre. La joie d'apprendre avec l'autre. Et ça, les parents sont très fiers de ça. Pour eux, c'est vraiment ce qui leur est apparu comme le plus précieux à l'issue de cette expérience.
Si vous voulez en savoir plus sur cette expérience, je rappelle les lois naturelles de l'enfant. Le livre est paru aux éditions de La Reine. Et puis nous vous recevons Céline Alvarez pour transmettre, paru aux éditions de l'Iconoclaste. Après Benjamin Biolay, Ton héritage, chanson magnifique sur justement la transmission. On va se retrouver pour la dernière partie et quelques questions que nous posons, nous parents. Encore des questions, interminables questions. Vous restez 2 heures, non? Bon, on va se quitter à 14h, à tout de suite.
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps. Si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon,
si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps, si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang. Si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans, et si tout se déroule jamais comme dans tes plans, si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec, ou plutôt sans.
Donc l'école, selon Céline Alvarez, aujourd'hui, vous pouvez encore une fois prolonger en allant sur internet voir des vidéos et puis voir des conférences, lire votre livre. Encore quelques questions quand même juste avant de se quitter. C'est vrai que on a le sentiment de liberté quand vous nous parlez de cette école. La réalité doit être difficile quand on sort d'un tel cadre. Et que l'école, elle est finalement faite pour leur apprendre que la vie est injuste, que c'est difficile et qu'il faut se coltiner parfois des choses qui ne nous intéressent pas, mais c'est comme ça.
Non, je pense que justement, quand on sort d'un tel cadre éducatif, d'un tel environnement pédagogique, au contraire, la vie est bien plus facile. Oui, parce qu'on sort d'un tel environnement avec confiance en soi, confiance en l'autre, et avec des capacités cognitives, que sont les compétences exécutives, qui sont bien développées. Et donc on est bien capable, plus que d'autres enfants qui n'auraient pas eu la possibilité de développer ces compétences-là, et bien d'affronter la vie avec ses difficultés, ses causes injustes. On est beaucoup plus capable parce qu'on a plus de flexibilité cognitive, qui est une des compétences exécutives capitales. Donc on est capable de changer nos stratégies pour arriver à nos objectifs. On est capable de comprendre comment fonctionner différemment pour s'adapter, en fait. On est beaucoup plus adapté, beaucoup plus flexible, beaucoup plus... on est capable de mieux se contrôler aussi, parce qu'une des compétences exécutives qui se développe quand on est autonome au quotidien et autonome dans la relation à l'autre, c'est le contrôle inhibiteur. On est beaucoup plus capable de se contrôler, de différer une envie peut-être très superficielle, une distraction qui nous traverserait l'esprit. On est capable de différer, de se focaliser sur un objectif pour atteindre cet objectif. Et donc, les enfants qui sortent de ce système-là, finalement, sont encore plus adaptés que les autres à réaliser une tâche qui ne leur convient pas, par exemple. Puisqu'ils sont beaucoup plus capables de se contrôler leurs émotions et de différer des envies qui seraient plus superficielles, mais qui ne seraient pas forcément adaptées. Donc, non. Au contraire, quand on sort d'un tel environnement, on est beaucoup plus apte à être et à être dans ce monde-là.
Beaucoup de parents qui vous questionnent. Hein. Et parmi les questions, j'imagine, c'est qu'est-ce que je fais? Mon enfant est scolarisé dans une école où ça se passe plus ou moins bien. Je suis pas forcément solidaire avec la manière d'enseigner, mais bon, c'est comme ça. C'est l'école du village. La communication avec l'enseignant est un peu difficile. On peut pas tout révolutionner et parfois, parents, on est impuissant. Qu'est-ce qu'on fait face à son enfant? On lui dit qu'on n'est pas forcément solidaire. On lui fait part de nos bémols. On essaye de contrebalancer. De quelle manière?
Alors,
dire,
je ne sais pas, ça dépend vraiment des environnements familiaux, ça dépend de qui on est, ça dépend de qui est l'enfant, comment... on ne peut pas répondre à ces questions-là comme ça. En revanche, ce que l'on peut faire, je crois, c'est de peut-être apporter à l'enfant un climat à la maison ou dans la famille, un climat humain, un climat pédagogique où il puisse voir justement ces mécanismes naturels d'apprentissage et d'épanouissement qui puissent fonctionner, qui puissent être libérés, qui puissent permettre de qui puisse se mettre en marche, s'exercer de manière à former tous ces potentiels qui sont disponibles à l'état latent. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça voudrait dire permettre à l'enfant d'accéder à un environnement de qualité au niveau du langage, ne serait-ce que ça. On sait que le langage va vraiment structurer l'intelligence et développer les compétences exécutives. Donc avoir autour de l'enfant un langage de qualité, suffisamment riche, précis, structuré. Un environnement aussi où l'enfant va pouvoir être accompagné, à être autonome de plus en plus dès le plus jeune âge, donc avec une présence au début très importante de l'adulte à ses côtés, mais en même temps avec une capacité de l'adulte de se retirer, de s'effacer progressivement pour laisser l'enfant faire seul. Parce que c'est vraiment ce que dit le centre...
C'est le plus beau cadeau.
C'est exactement ce que dit le centre de développement de l'enfant Harvard. Il dit c'est le meilleur système pédagogique pour permettre à l'enfant de développer ses compétences exécutives. Et puis dernière chose surtout, c'est lui éviter à la maison les stress inutiles, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les stress qui envahissent le cerveau de l'enfant vont vraiment venir abîmer les structures fondamentales à cause de la sécrétion de cortisol, surtout si elle n'est pas régulée par un câlin, lorsque l'enfant va pouvoir mettre des mots sur ce qu'il ressent. Donc éviter les stress inutiles ou l'aider, aider l'enfant, l'accompagner pour qu'il puisse les réguler de manière autonome, et surtout entourer l'enfant d'un environnement humain, soutenant et chaleureux. Et je ne parle pas là que des adultes. C'est permettre à l'enfant qu'il puisse être entouré d'autres êtres humains qui n'ont pas forcément son âge, plus jeunes, plus âgés, avec lesquels il va pouvoir interagir et investir des relations et modéliser des comportements. Mais voilà, toujours dans le lien et la chaleur humaine. Parce que c'est là vraiment où toute l'intelligence humaine va pouvoir être catalysée et se déployer.
Merci infiniment Céline Alvarez d'avoir accepté l'invitation. Transmettre le dernier livre paru aux éditions de l'Iconoclaste, ce que nous apportons les uns les autres. Et puis votre livre paru donc il y a quelques années mais qu'on trouve toujours parce que je pense que c'est ce qu'on appelle un long seller en librairie, c'est ça. Les lois naturelles de l'enfant paru aux éditions de la Reine et votre site internet. Tout ça, merci encore une fois d'avoir passé cette heure avec nous. Go slow.
Don't give in to the strain. Don't give in to all the pain. Move into a new domain. Don't bow. There's nothing that you gotta prove. All you gotta do is move and give in to the groove.
Avec Didier Uwaigo et Groove que nous terminons cette émission. Merci pour votre fidélité, merci d'écouter Egosystème. Vous pouvez réécouter, envoyer sur les réseaux sociaux l'heure d'émission que vous venez d'entendre, ainsi que les nombreuses archives toujours à disposition via le site RTS sur la page Egosystème. Bénédicte Banet en régie, François Piton pour le choix des musiques. On vous souhaite un excellent week-end et nous nous retrouvons samedi prochain, même place, dès 13h. Prenez soin de vous. Bye bye et bon week-end.